Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Ça s'appelle Python. Alors évidemment, si vous suivez Tech & Co régulièrement, vous savez que Python est un langage utilisé dans l'intelligence artificielle. Mais par contre, ce n'est pas une informaticienne, ou pas encore. En tout cas, on va voir si ça, votre vie s'est transformée. Nathalie Azoulay, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes romancière. Vous avez déjà écrit une douzaine de romans. Vous étiez primée d'Icis en 2015. C'est ça, pour un roman qui s'appelle Titus n'aimait pas Bérénice. Et puis là, alors je vais juste donner le début hein, de votre roman. Vous êtes chez des amis, vous voyez un des enfants, enfin des ados qui est en train qui est sur son ordinateur. Il ne joue pas, non, il fait du code, il fait du Python, et donc du coup ça vous interpelle et vous partez dans votre quête. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Et donc le livre, c'est plusieurs portraits. Alors il y a Enzo, Marion, Margot. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec Margot d'ailleurs dans ce qu'elle dit, mais enfin voilà, vous décrivez tous ces portraits et puis vous décidez vous-même d'apprendre le langage. Alors ma première question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en vous donnant une petite application, vous sauriez un petit peu vous débrouiller avec ce code de Python?
J'ai appris vraiment des rudiments pour comprendre 2-3 choses de la logique, des boucles, de la récursivité. Mais je ne suis pas sûre que je me débrouille très longtemps toute seule devant Python.
Et alors, qu'est-ce qui vous a attiré? Alors, vous le dites assez vite hein, dans le début du livre, ce qui vous a attiré vers ce langage, mais justement, pour pousser un peu les gens. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, c'est aux éditions Paul, hein. Si vous voulez retrouver ce roman. Qu'est-ce qui vous a intrigué là, dès le départ?
Ce qui m'a intrigué, c'est que des milliers de jeunes hommes, de jeunes gens, passent leur journée à coder, visser à leurs écrans, à se passionner pour ça, à oublier le reste du monde. Et je me suis demandé ce qu'il y avait dans cette concentration, je me suis demandé ce qu'il y avait dans ces langages. Quand j'ai compris que c'était des langages et qu'ils étaient faits de la même chose que du mien, c'est-à-dire d'alphabet et de chiffres et de ponctuation, je me suis dit, mais en fait, sous toutes nos activités, il y a ces flottes graphiques qu'on ne soupçonne même pas et qui sont en fait le fait de gens qui passent leur vie à faire ça. Et donc j'ai eu envie d'aller voir en dessous. Alors c'est un peu une image parce que c'est pas en dessous, mais d'aller voir derrière, en dessous ce qui se passait. Pour comprendre comment ça fonctionnait, depuis quand ça fonctionnait, comment ça avait évolué, et ce qui faisait que ces gens-là étaient passionnés par ça.
Et vous aviez des idées. Alors, ça s'appelle Python, vous parlez d'autres langages à l'intérieur, mais c'est vrai que c'est Python qui a été l'élément déclencheur, et puis c'est quand même le langage aujourd'hui qui attire beaucoup de développeurs, notamment dans l'intelligence artificielle. Vous aviez des idées un peu préconçues, justement, au départ, sur. Ça vous a un peu cassé quelques mythes sur l'univers informatique de ces gens, enfin, vous venez de le dire, un peu enfermés, le suite à capuche et on code.
Bah, j'avais en effet des clichés, comme tout le monde a un peu ce genre d'image, de représentation qu'on voit au cinéma ou dans les séries. Mais en fait, j'ai un peu mieux compris d'abord comment ça s'était passé dans le temps, comment ça a évolué tout ça. Et puis, je crois que j'ai un peu plus approché ce qu'ils appellent le flow, c'est-à-dire ce qui les maintient en action et en satisfaction, parce que c'est une activité parfois ingrate, parfois difficile, enfin souvent difficile. Et pourtant, il y a du plaisir et pourtant, il y a de la satisfaction parce qu'il y a de la résolution de problèmes constamment. Et donc, tout ça, je ne le soupçonnais pas parce que je n'en avais jamais entendu parler. Vraiment. Et en les interrogeant, les observant, en allant dans des écoles.
C'est ça, il y a plusieurs portraits, j'en ai cité quelques prénoms. Vous êtes aussi allé à l'école 42,
oui.
Vous avez rencontré la directrice générale de l'école 42.
J'ai dialogué avec le créateur du langage Python lui-même. Mm-hmm. Et en fait, j'ai pratiqué ce qu'il y a dans ce roman, à savoir l'apprentissage. Je suis allée voir des professeurs. Alors, c'était un peu le monde à l'envers, parce que j'étais la plus vieille, oui. Et le professeur était très jeune. Et de professeur en professeur, j'ai glané de nouveaux éléments jusqu'à celle que vous évoquiez, à savoir Margot, qui, elle, connaissait à la fois mon monde, la littérature, oui. Et le monde du code.
Oui, c'est vrai qu'elle a eu cette première vie et puis ensuite elle est venue vers le code. Aujourd'hui, vous diriez, alors, sur ce livre, est-ce qu'il peut plaire à des informaticiens ou est-ce que des informaticiens, en le lisant, ça va les agacer?
Alors, de mon expérience récente, je crois que ça ne les agace pas du tout. Et en fait, j'ai eu beaucoup de contacts avec pas mal de CTO et de gens que j'ai rencontrés à l'occasion de ce livre et qui sont en fait assez contents qu'une lumière venue de l'extérieur, voilà, et non spécialisée et qui n'est pas de leur monde, se pose sur eux et les regarde d'une manière quand même assez positive.
Et du coup, parce que j'imagine que vous avez d'autres romans en tête, est-ce que vous vous mettez à réfléchir, est-ce qu'il y a une réflexion différente différente entre un codeur donc qui écrit un programme et vous qui écrivez un roman. Donc les codeurs, ils ont tout un tas de choses, ils ont des fonctions, des variables, des boucles. Enfin, il y a tout un codage de départ. Enfin, on met un peu ses paramètres de départ et puis on bâtit autour. Un roman, c'est un peu, enfin, j'en ai pas écrit, mais on a ses personnages, on a les lieux, le contexte, et puis ensuite on raconte toute l'histoire. Il y a un peu une similitude un peu entre ces deux.
On peut établir des analogies, mais elles sont un peu tirées par les cheveux, ouais, parce que d'accord. Ça n'a quand même rien à voir. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est de montrer que d'un côté, dans le code, c'est un langage qui s'exécute et qui doit produire des actions immédiates et qui doit anticiper sur toutes les options possibles d'une action et sur toutes les bifurcations possibles. Et de l'autre côté, on a un texte qui ne s'exécute pas. Un roman, ça ne s'exécute pas. Au contraire, ça laisse place à une très très large part d'interprétation, d'ambiguïté, de polysémie, ce qui n'est pas du tout le cas dans le code. S'il y a une zone d'ambiguïté, alors c'est fichu. Donc, au contraire, non, c'est vraiment deux mondes très très différents. Mais d'aller de l'un à l'autre et de réfléchir au langage en allant de l'un à l'autre, c'est aussi très enrichissant.
Alors, ce qui est intéressant aussi, donc vous avez rencontré Sophie, son nom m'échappe, et la patronne Vigée de l'école 42. Alors, il y a une Marion, une Margot, et alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des jeunes hommes, parce qu'à un moment, j'ai retenu une page, dès que l'ordinateur est entré dans les maisons, on l'a posé dans la chambre du fils, et même quand il devait servir à toute la famille, on l'installait sur le bureau des hommes. Oui. Donc, est-ce que ce livre-là pourrait ouvrir aussi un peu plus cet univers aux jeunes femmes, enfin aux femmes et aux jeunes femmes ?
Peut-être, c'est vrai que les professeurs sont souvent des filles, parce qu'en fait les garçons me font peur quand j'arrive, parce que je me dis on va pas du tout se comprendre, ils vont me trouver ridicule, etc. Donc je vais d'abord voir des filles, et puis je vais après voir des garçons. Alors c'est vrai que les filles, elles restent très marginales dans le monde du code. Ça augmente un peu, via ces écoles notamment, et les efforts de Sophie Vigée en particulier. Mais ça reste une activité très masculine, historiquement, et j'imagine encore un peu pour longtemps.
Est-ce que vous pourriez être, vous seriez prête à devenir un peu une ambassadrice, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a du mal à attirer, alors que ce soit les jeunes hommes ou les jeunes femmes, vers ces matières scientifiques, il y a un peu de mathématiques, même si aujourd'hui, grâce à Python, grâce à ce qu'on appelle le low-code, on peut s'orienter vers sa carrière sans avoir un esprit matheux, enfin, ça fait 5 ans de maths à tout prix. Est-ce que vous pourriez être un petit peu une ambassadrice du code? Et puis je crois, à un moment, vous dites, pour coder, il faut de la testostérone, et justement, prouver que, alors là je reviens sur la parité, prouver que pour coder c'est ouvert à tous et à toutes.
Oui, moi je serais ravie de jouer ce rôle. Mon roman précédent parlait déjà des filles et des mathématiques. C'est une vraie question en France et c'est un vrai problème et c'est tout à fait regrettable et j'espère qu'on va y remédier. Et de la même façon, le code c'est une activité qui est porteuse d'avenir, de travail, d'emploi, etc. Et c'est très dommage qu'il y ait si peu de filles, parce que ça leur rassurerait beaucoup d'indépendance économique et beaucoup de pouvoir. Donc, moi, je serais très, très prête à encourager tout ça.
Et puis, alors, vous avez écrit votre livre pendant, justement, cette arrivée, cette irruption, cette fulgurance de l'IA générative avec ChatGPT. Vous le citez 2-3 fois. Vous les avez interrogés un peu, ces codeurs, sur... parce que là, ChatGPT pourrait, pas les remplacer, mais en tout cas, les assister. Là aussi, c'est quelque chose d'un peu nouveau pour eux.
Oui, alors je crois que ça les aide, je crois qu'ils sont assez contents d'avoir cet outil. Je crois que comme pour tout le reste des matières, ils disent que c'est de la logique statistique, donc ça reproduit des bouts de code qu'on connaît, et que tout ce qui est à inventer, à créer et qui est inconnu, bon, ça reste encore l'entreprise des hommes sans aide encore de l'IA, mais ça viendra.
Et alors pour l'approche que vous avez faite du codage, est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'on soit tous formés un minimum justement à ce codage, au moins les rudiments, qu'on comprenne un petit peu.
Ah ouais, comment je pense que ce serait vraiment formidable qu'on apprenne ça aux jeunes enfants, qu'on leur explique cette logique. Code Citizen Python. Oui, j'ai fait moi des exercices parce que ça me familiarisait avec la logique du séquençage et de l'analyse. Et je pense que c'est tout à fait indispensable que tous les enfants soient formés à ça, comme ils sont formés à la grammaire, comme ils sont formés à l'histoire ou à la géographie.
Bon, eh bien, on se servira de ce livre justement à nouveau pour justement vulgariser, généraliser, attirer, évangéliser un peu davantage le langage informatique d'une façon générale. Merci en tout cas pour cet ouvrage que moi j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, et voilà, je le conseille à tous ceux effectivement informaticiens ou non informaticiens. Et puis si vous pouvez jouer ce rôle d'ambassadrice justement pour attirer davantage les jeunes hommes hommes et filles vers ces métiers, eh bien, ce sera déjà tout le mérite de cet ouvrage. Je rappelle, ça s'appelle Python, comme le langage. Nathalie Azoulay, aux éditions Paul. Merci de nous avoir rendu visite sur le plateau de BFM Business.